Et Boomerang Nicolas avec le héros du jour, vous l'avez entendu, Arnaud Desplechin ce matin, c'est parti. Qu'est-ce que vous regardez quand vous regardez un film, vous? Qu'est-ce que vous regardez vraiment? Un écran ou alors autre chose? Un autre lieu, par exemple? Un autre temps? Votre propre histoire? Ou celle d'un personnage? Ou peut-être un peu des deux? Est-ce que vous regardez des corps, des visages? Ou est-ce que, comme moi, vous bloquez sur les yeux? Par un étrange effet de miroir, tout au cinéma, pour moi, se joue dans le regard. Qui fixe, ou qui fuit, qui frise, ou qui sourit. Le regard maquillé, parfois trop ou pas assez. Le regard dénudé. Celui qui ne sourcille jamais, qui ne cligne pas des yeux. Celui qui au contraire bat la mesure avec ses paupières comme un signe de ponctuation des pensées, de ce qu'il s'agit pour nous de lire ou d'analyser. Je pense au regard mouillé ou embué ou juste un peu brillant, ce qui vous serre le cœur et qui valent plus que les dialogues tremblants. Je pense aux regards qui prennent de la distance ou de la hauteur, le regard qui vous fait un clin d'œil, vous savez, ou celui qui vous questionne ou qui vous prend à témoin. Je pense aussi aux regards qui perdent tous leurs moyens, devant qui, devant quoi, parce que c'est ça qui se passe au cinéma, qui regarde qui ou qui regarde quoi. Il arrive même qu'un acteur regarde la caméra, auquel cas c'est nous qui sommes visés littéralement, à moins qu'on le soit tout le temps. Quand vous regardez un film, vous, qu'est-ce que vous regardez vraiment?
Boomerang à Cannes.
Une autre Cannes se réveille à cet instant.
Augustin Trapenard sur France Inter.
Boomerang. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, où se place le regard de mon invité d'aujourd'hui. Il est cinéaste et c'est la sixième fois en 30 ans qu'il est en lice pour la Palme d'Or. Frères et Sœurs, son nouveau film avec Marion Cotillard et Melville Poupeau sera projeté ce soir dans la foulée de sa sortie en salle dans toute la France. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, l'un poète, l'autre comédienne, séparés par une haine de toujours que des circonstances tragiques vont réunir malgré eux. Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour Augustin.
Merci d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, c'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que vous regardez, vous, quand vous regardez un film?
Comme vous, les yeux.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. J'aime bien les... Ça se remarque quand même. J'aime bien les actrices et les acteurs qui ont des gros yeux. Vous voyez, c'est... J'aime bien la quantité d'yeux. Vous voyez, Marion, elle a des yeux invraisemblables. Vous voyez,
Marion Cotillard.
Marion Cotillard. Vous voyez, je pense à Emmanuel De Vos, qui a des yeux tellement... Vous voyez, qui lui dévore le visage. Je pense à Emmanuel Salinger. Vous voyez,
c'est intéressant. Arnaud Desplechin, qu'est-ce qui fait la force d'un regard de cinéma? À quoi ça tient?
Ah, ça, je sais pas. La présence, vous savez, c'est quelque chose dont je suis totalement dépourvu. Donc, c'est pour ça que j'admire tellement ça chez les acteurs. Oui, j'ai aucune présence. Alors, du coup, j'adore filmer des gens qui ont la présence. La présence à la caméra, être présent à soi-même. Ça, c'est le mystère de l'acteur.
Et ça passe par les yeux?
Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que, il se passe ce dialogue que vous décriviez mieux que je saurais de faire entre les yeux des spectateurs et les yeux où c'est des fenêtres. Vous voyez, ça a l'air d'un cliché, des fenêtres de l'âme. Ben ouais, c'est les fenêtres de l'âme, je suis désolé.
Alors précisément, quand pour la première fois avez-vous eu l'impression d'avoir été happé par l'intensité d'un regard de cinéma? Vous qui êtes un cinéphile aguerri.
Cinéphile aguerri, non. Je suis provincial et j'ai l'âge que j'ai. Donc ça veut dire que c'est passé par la télévision, bien sûr. La télévision française avait l'art de savoir projeter les films à une époque. Et donc nous, on n'avait pas la télé. Je la regardais chez mes grands-parents. Et pour moi, c'est le souvenir d'Ingrid Bergman dans les films de Hitchcock. Oh. Ça, c'est vraiment... J'ai vu ça, j'avais, je sais pas moi, 7-8 ans. C'était en noir et blanc, vous voyez, même pour les films en couleur. Et je regardais Bergman et je me disais, voilà, pour ça, pour ces yeux-là, je me noie dans ça.
Pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard?
Ah ben, il y a une telle ambiguïté, une telle puissance, une telle vibration, vous savez. Et puis ces femmes qu'elle a joué Bergman chez Hitchcock, vous voyez, des femmes déchues et triomphantes en même temps. Alors évidemment, ça me fait vibrer.
Et dans quelle mesure diriez-vous qu'en tant que cinéaste, votre travail consiste peut-être d'abord, Arnaud Desplechin, à mettre en scène, à organiser, à diriger les regards de vos personnages, de comprendre et de montrer dans quelle direction ils regardent précisément?
Ben là je pense à Frères et Sœurs, c'est vraiment un des motifs de Frères et Sœurs, c'est qui regarde qui. Alors c'est l'histoire d'une sœur qui peut plus regarder son frère, elle est terrifiée par lui, elle a peur.
Peut plus le voir littéralement.
Elle peut plus le voir. Et lui, il regarde sa sœur, il sait pas la regarder non plus. Alors, il faut qu'ils réapprennent à se frotter, à se toucher l'un l'autre avec les yeux, et ils savent pas le faire. Il y a des subplots comme ça.
Alors il y a des sous-intrigues.
Voilà, Marion, elle est actrice, Marion Cotillard, son personnage s'appelle Alice. Alors elle est sous les regards des autres, à un moment de sa vie où elle voudrait être cachée. Et vous voyez, il y a Cosmina Stratan, qui est une actrice merveilleuse roumaine, qui vient la voir comme ça.
Qui joue une fan,
et qui veut rester dans l'ombre. Mais alors, il faut la ramener dans la lumière. Alors, tout se joue entre la lumière, l'ombre, qu'est-ce qui veut être regardé, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui veut espionner l'autre du frère et de la sœur. Donc, il y a tout un jeu de regard qui circule à travers tout le film.
Et puis, la question de la haine, quand même, qui est absolument centrale. Quel sentiment est-ce que c'est pour vous, la haine, Arnaud?
Pour moi, c'est pas un sentiment, c'est une perte de temps. Pour moi, la haine, c'est une perte de temps, c'est l'autre, c'est le visage contrarié, c'est le visage malheureux, c'est une passion triste de l'amour. Oui. Je pense, c'est assez simple, ce qui s'est passé. C'est un amour quasiment incestueux entre eux. Et à un moment, c'était trop. Il fallait chacun qu'ils fassent leur vie. Et alors, ils se séparent. Et alors, évidemment, moi, je suis contre les séparations. C'est triste, même si, oui, j'ai fait ma vie, tout ça, c'est des raisonnements matures. Moi, je suis totalement immature. Je dis, non, rien à faire, rien à faire. Je veux que vous vous retrouviez. Et le film répare un peu le tissu de la vie qui s'est abîmé entre eux.
Alors, de façon intéressante, c'est un sentiment que vous avez beaucoup exploré dans Rois et Reines, dans Un conte de Noël. C'est un sentiment d'une force et d'une puissance qui appelle, j'ai l'impression, c'est vous. Vous parlez d'inceste à des temps bibliques, à des temps mythiques, à quelque chose de presque mythologique.
Ben c'est mon défaut et ma qualité. Mon défaut, c'est dès que je regarde le réel, je peux pas m'empêcher de rajouter du mythe. Alors on me dit, mais pourquoi tu fais pas des films sociaux, etc. En même temps, ma qualité, c'est, vous voyez, je filme deux personnes à table qui prennent une tasse de café, puis ça ressemble à Abel et Cain. Donc du coup, c'est pas mal.
À quelles conditions, Arnaud Desplechin, la haine peut-elle être dépassée? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, c'est faut arrêter de se demander pourquoi. Il faut se demander comment. Et faut dire quand est-ce que ça s'arrête. Et comment ça s'arrête? Je suis très fier de ça. Je pensais à un mot savant, mais devant vous, je peux le dire, à un mot grec. Vous voyez, qu'on appelle la toucher, la rencontre. C'est quand tout d'un coup, il y a autrui, il y a une autre personne, et vous tombez sur lui. Vous tombez sur lui comme un caillou. Vous voyez, vous tombez sur lui, vous trébuchez, quoi. Vous trébuchez sur un autre être humain. Et tout d'un coup, ça sert plus à rien de dire, il est inhumain, etc. Non, vous tombez sur lui. Comme Alice, quand elle retrouve son frère, quand elle retrouve Louis, elle tombe sur lui. Ils sont comme deux petits chiens à quatre pattes dans un supermarché, et ils se cognent, et ben voilà, vous êtes juste devant un autre être humain et ça s'arrête.
Vous avez haï, vous haïssez?
Ben non, pas vraiment, je crois pas vraiment. J'aimerais pas jouer à la belle âme, quoi. Bien sûr que sûrement j'ai dû avoir des sentiments très contrariés. Je pense toujours avec amusement, vous voyez, à une phrase qui ouvrait L'Aterna Magica, qui était un livre autobiographique de Bergman, et qui disait, comment c'est ça, c'est à la page 3, je me suis dit, oh, ça c'est un livre pour moi. C'est la première fois que j'ai essayé de tuer mon frère, c'était à coup de marteau, j'avais 5 ans. Vous dites, oh, le livre, ça va dépoter quand même. Et donc, bien sûr, sûrement, vous voyez, enfant, on doit avoir des passions terribles, quoi.
Moi, ça me fait rire, parce que vous auriez pu effectivement en faire une adaptation. Parce que la haine chez vous se déploie entre frères et sœurs. C'était déjà le cas dans Un conte de Noël, au fond. Quel frère est-ce que vous êtes, Arnaud?
Ah, horriblement maladroit. Horriblement maladroit. J'ai la chance d'avoir deux sœurs et un frère, et je suis maladroit avec les trois également. Je suis un oncle désastreux. Je suis un enfant médiocre. Voilà. Mais je fais des efforts. Je fais des efforts.
Mais vous savez, là, je vous écoute et ça m'intéresse ce que vous dites sur la haine, parce que vous en proposez, j'ai l'impression, une réflexion morale au spectateur. Et je pense tout de suite au travail du philosophe Stanley Cavell, que vous connaissez bien et qui se demande dans quelle mesure le cinéma a le pouvoir de nous rendre meilleur. C'est une grande théorie du cinéma. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, vous?
Mais j'ai eu la chance de connaître Stanley Cavell et de devenir son ami avec les années. Et je crois que le cinéma, ça rend meilleur. Parce que vous faites des choses dans les films que vous pouvez pas bien faire dans la vie. La vie, c'est mal fait. C'est un peu mal fabriqué. Je pense que c'est un tout petit peu surévalué. Quand vous regardez des films, vous dites non, les films, c'est comme la vie, mais un peu mieux.
Vous me faites penser à Michel Houellebecq qui disait que les dauphins sont surévalués. La vie, c'est surévalué. Qu'est-ce qu'il y a de plus moral en vous, Arnaud Desplechin?
Mon rapport avec Cavell, Lévinas, il y a une phrase que j'aime beaucoup comme ça. Louis est devant celle qui deviendra sa femme, Golshifteh Farahani, qui est merveilleuse dans le film. Et elle lui dit, mais pourquoi votre sœur vous déteste? Et lui répond, mademoiselle, je crois que ce serait pas très moral de répondre à votre question. Et vous voyez, ça j'aime bien. Là, sur ce plan-là, je suis très moral.
Vous diriez que le cinéma a modifié vos rapports aux autres, votre rapport au réel?
Ouais, pour moi, c'est une façon de... Je me souviens d'une émission qui me plaisait beaucoup, comme ça, qui était très très insolente avec Léa Seydoux. On était à la radio et alors les gens de la radio lui disent, mais alors vous regardez des séries télé, vous adoreriez être dans une série télé puisque vous faites tant de films, etc. Et Léa Impériale dit, ah non, pas du tout, les séries télé, ça m'intéresse pas du tout. Alors le présentateur était super déçu, quoi. Il disait, ah bon, alors pourquoi vous aimez pas les séries? Elle disait, oh, parce qu'on me raconte des histoires, moi je préfère voir des idées.
Ah,
j'étais scié quand elle a dit ça, scié. Et voilà. Et moi, c'est vrai que quand je vois des films, je vois des pensées, des idées que je suis incapable de déchiffrer. Moi, j'ai 8 ans d'âge mental quand je regarde un film. Donc, je vois des idées d'adultes comme ça qui traversent l'écran. J'essaie de les attraper, j'y arrive pas bien. Et ça change ma vie et ça la change en mieux.
Arnaud, vous savez qu'il y en a une qui a 8 ans d'âge mental dans cette émission. C'est bien que vous la citiez. C'est évidemment la culture. Et son actualité va, je ne te hais point, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 20 mai? Le compositeur grec Vangelis, c'était un mardi soir, il avait 79 ans, pionnier de la musique électronique et maître des synthés. Il était célèbre pour les musiques de films qu'il avait composées, notamment celles de Blade Runner, Lune de Fiel ou Les Chariots de Feu. Oscarisé en 1982, membre du groupe Aphrodite's Child avec Demis Roussos, puis musicien en solo, il avait vendu des millions de disques à travers le monde et même signé l'hymne officiel de la Coupe du Monde de football en 2002. Et si on essayait d'habiter la Terre ensemble? C'est autour de cette question que va s'articuler la première édition du festival Haïti Monde. Nouveau rendez-vous littéraire qui se tiendra ce week-end dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Mêlant lecture, spectacle, performance, rencontre, la manifestation propose de célébrer les lettres caribéennes et met à l'honneur le formidable poète haïtien James Noël. On pourra aussi y croiser Mackenzie Orcel, Sophia Aouine ou Lionel Trouillot en Igo. Vrai héros de tous les temps, en tout cas de notre week-end. Première formation rock française à avoir rempli le Stade de France en 2010, le groupe Indochine s'apprête à réitérer l'exploit pour célébrer en grande pompe et sans restriction ses 41 ans de carrière. Demain soir, le groupe investira la scène de l'enceinte du 93 pour un show qui marquera le point de départ de sa tournée estivale baptisée Central Tour. On y attend 80 000 personnes et Nicolas Sirkis, le frontman à mèche de la bande, l'a promis, ce sera bouleversant.
Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce qui se passe, c'est comment l'atmosphère, c'est quoi je...
Et enfin, des bancs de l'école aux marches de Cannes, l'événement aujourd'hui sur la croisette, outre la projection de votre frère et sœur Arnaud Desplechin, ce sera la présentation du petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Entre hommage poétique et nostalgie graphique, ce long métrage animé d'Amandine Fredon et Benjamin Massoub revient sur la naissance du personnage d'écolier culte, sorti de l'imagination foisonnante de René Goscinny et de Jean-Jacques Sempé, doublé par Alain Chabat et Laurent Lafitte. C'est hors compétition et c'est tout bon. Le cinéaste Arnaud Desplechin, donc invité de Boomerang ce matin pour Frères et Sœurs en compétition officielle projetée ce soir dans le Palais des Festivals et où l'on retrouve cette famille de cinéma originaire de Roubaix qui peuple tous vos films et qui s'appelle les Vuillards. Qu'est-ce qui se joue pour vous à travers ce nom en art? Parce que vous pensez bien que moi ça me parle. Et c'est jamais au hasard qu'on s'appelle art.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'hasard, il y a de l'art dans leur nom, comme ils diraient en thérapie. Et c'est
dont vous avez réalisé certains épisodes.
Oui, j'ai avec Suzanne Lindon, ouais. Et pour moi, c'est parce qu'il y a une histoire qui est assez, il y a un pan de l'intrigue qui est assez important, qui sont les rapports d'amitié entre Melville Poupeau et Patrick Timsit. Et donc, il m'importait que les Vuillards, c'est des chrétiens. C'est un nom français. Veillez, le personnage de Patrick Timsit s'appelle Zvia Chomer, c'est la synagogue. Alors donc du coup, qui est l'amitié entre l'Église et la synagogue, ça importe beaucoup pour moi. C'est une famille du Nord, et puis comme j'aime beaucoup Vuillard, voilà, c'est devenu le nom générique, voyez, de cette famille.
Vuillard écrivain, vous voulez dire?
Je pensais au peintre.
D'accord.
Et, je pensais au peintre. Vuillard, c'est un écrivain remarquable, de très impressionnant.
Mais qu'est-ce qu'il y a de plus Desplechin dans les Vuillards?
Je sais, il y a un amusement de fiction qui me frappait dans Un conte de Noël, c'est qu'ils osent dire les choses que dans la vie on n'ose pas dire. Ils sont mal polis. C'est ça que j'aime bien. C'est tous les trucs interdits, ils commencent par ça. C'est-à-dire que quand d'habitude vous avez des personnages obéissants, vous voyez, la phrase interdite, ils la disent en fin de scène. Vous comprenez, vous montez l'intrigue, etc. Et à la fin de la scène, ils disent « Je te déteste, maman », etc. Non, pas du tout. Dès la vie des morts, vous voyez, il y a Marianne Denicourt qui disait « Mais tout le monde déteste sa mère, c'est bon, quoi, on va pas non plus refaire les élections, etc. » Et ça commençait comme ça. C'est la famille qui met les pieds dans la table, vous voyez, qui se comporte mal. Alors moi, scénariste, j'essaie de poursuivre mes personnages. Je les précède pas, je les poursuis. Ils parlent plus vite que moi.
Plus impoli au cinéma que vous ne l'êtes dans la vie.
Voilà, ça me permet d'être enfin impoli.
En tout cas, ce que crée la récurrence de ce nom pour le spectateur qui vous suit depuis longtemps, c'est aussi un sentiment de cohérence, d'unité, d'écho, sentiment d'être face peut-être à une œuvre ou du moins à un genre de roman, un grand roman familial.
Ben, vous voyez, pensant à Frères et Sœurs, ça me faisait plaisir de venir ce matin parce que je voulais juste vous lancer un nom que vous connaissez mieux que moi, c'est Salinger.
Ouais.
Vous voyez? Et je pensais que, donc, il y a cet écrivain américain remarquable qui a beaucoup écrit sur les frères et les sœurs. Alors c'est des familles qui sont emplies d'amour et qui ont pas de passion triste, mais qui sont des familles un peu boiteuses comme ça, et très très tourmentées. Et je me disais peut-être avec fierté, je me disais peut-être c'est mon film le plus Salingeria.
Je parlais du nom Vuillard, mais on pourrait également parler, Arnaud Desplechin, de la ville de Roubaix, point névralgique de votre film, Frères et Sœurs, et de votre cinéma. Qu'est-ce qui fait de Roubaix une ville de cinéma? Et ne me dites pas Une Lumière, parce que c'est le titre d'un de vos films.
Oui, bah parce que c'est piqué à un écrivain, Philippe Roth, tous ses livres à un moment, pas les livres du début, mais quand il a trouvé sa voie, tous ces livres se passent à un moment ou à un autre par Newark. Ouais. Alors que la première fois que j'étais à Newark,
dans
New Jersey, je passais, vous voyez, en taxi en revenant de l'aéroport, et je me disais, vous voyez, c'est Jérusalem, la Mecque, vous voyez quelque chose de, en fait, pas du tout, c'est une banlieue qui ressemble à n'importe quoi, etc. Et tous ces livres passent par l'endroit de son enfance. Et moi, passer par cet endroit de mon enfance, c'est une ville qui est déshéritée, c'est la ville la plus pauvre de France, et en même temps, c'est une ville que je connais bien et dont je vois les beautés plastiques très fort.
Oui, mais
cette tension entre vous voyez, cette tension entre la dureté de la condition de la vie là-bas et les splendeurs qui peuvent arriver, c'est ça qui me fascine.
Sauf que là, c'est du cinéma, contrairement à Philippe Roth. Comment faites-vous, projet après projet, pour la filmer d'une manière différente, cette ville, pour vous laisser surprendre, parce que par de nouveaux angles, par de nouvelles perspectives, par de nouvelles lignes de fuite?
Ben là, c'était tout simple. C'est l'actrice de théâtre. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire un grand saut. Pour les spectateurs, c'est rien. Pour moi, c'était énorme. Je vais filmer à Lille. Oui, alors pour moi, Lille, vous, ça vous dit rien. Mais Lille, moi, je sais très bien. C'est les 25 minutes de tramway que je prenais pour aller au cinéma, pour aller voir des films, parce qu'il n'y avait plus de salle de cinéma à Roubaix, vous voyez. Tout d'un coup, c'était la ville des riches, de la bourgeoisie, etc. Je me disais, je vais faire un film un peu snob, il va se passer à Lille au lieu de se passer à Roubaix. Alors, j'ai gardé des scènes à Roubaix, bien sûr.
Oui.
Mais vous voyez, tout d'un coup, ça déplace un peu le regard.
Et c'est intéressant, ce déplacement, justement, parce que contrairement à Roubaix, Une Lumière ou Un Conte de Noël, l'action de ce nouveau film n'est pas resserrée autour d'un seul lieu.
Non.
Au contraire, il tend et il s'ouvre sans cesse vers l'ailleurs, la Roumanie, l'Iran, le Bénin. Pour le cinéaste que vous êtes, qu'est-ce que ça veut dire, aller ailleurs, justement?
Eh ben, ça m'a importé vachement parce que, vous voyez, j'avais une... C'est une histoire de famille. Bon, vous disiez, Vuillard, pour moi, c'est français, c'est chrétien, c'est des gens, voilà, c'est des caucasiens, quoi, qui habitent le nord de la France, moyenne bourgeoisie, petite bourgeoisie, plutôt, quand c'est la vie des parents. Et je me disais, ouais, mais c'est l'entre-soi, c'est pas bien. Faut que je dynamite ce que j'ai écrit, quoi. Alors, tout d'un coup, Godshifteh, elle arrivait, elle a porté l'Iran. Vous voyez, moi, mes parents sont nés d'un côté de la Méditerranée. Timsit, ses parents, ils sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, ça a porté, comme ça, vous voyez, l'Afrique du Nord, ça a porté d'autres choses. Et je craignais l'entre-soi. Alors, du coup, j'ai fait toutes les stratégies. Je pense à Salif Cissé, qui était merveilleux dans l'abordage, qui joue le pharmacien, et qui est afro-descendant. Et tout d'un coup, ça ouvrait le film. Vous voyez, c'était d'ouvrir des fenêtres pour sortir de ce huis clos qui, sinon, serait trop étouffant.
Parce que c'est une angoisse pour vous de faire un cinéma, justement, d'entre-soi, un cinéma qui ne serait regardé que par les mêmes personnes.
Ouais, un peu. Je trouve que, peut-être l'ai-je trop fait. Et je trouve que c'est un travail, c'est le travail minimum l'artiste, c'est peut-être un grand mot.
Moi, de s'ouvrir.
Dans le cinéma, ouais, de s'ouvrir. De fracturer le film, de dire non, faut l'ouvrir au monde. Faut l'ouvrir au monde. Vous voyez, je suis pas capable. C'est une chose dont je ne suis pas capable. Je vais prendre des gens qui sont pas capables. C'est de m'ouvrir à la société. Il y a des gens qui sont capables. Je pense par exemple Nakache et Toledano, ils savent faire ça. Embrasser la société, la transformer en fiction. Moi, c'est un talent que je n'ai pas. Alors par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est d'embrasser le monde. Voilà. À défaut de savoir embrasser la société.
On l'embrasse le monde, tous les deux, Arnaud Desplechin, avec la carte de l'ailleurs, avec Ben E. King ce matin et son ode à la fraternité et au rapprochement. Stand by me. En 1961, vous êtes sur France Inter avec Arnaud Desplechin. Vous écoutez Boomerang à Cannes. On est bien. Et surtout, vous pouvez compter sur nous.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So dark. I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stand, stand by me.
Direct du Festival de Cannes.
C'est la montée des marches, Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose ?
C'est toujours la même chose avec lui. Hein. On est quelque part entre l'enfant de cœur et Trifon Tournesol. Avec son air d'étonnement perpétuel, son cheveu savant fou, son sourire bon Dieu en culotte de velours, avec son look de Blues Brothers. C'est lui-même qui me l'a confié ce matin. Le cinéaste Arnaud Desplechin, invité de Boomerang à Cannes pour Frères et Sœurs, ce film qui est présenté ce soir et qui s'ouvre sur une réunion d'amis et de proches après l'enterrement d'un enfant dont le fantôme va hanter le reste du film. Je me suis demandé pour vous, qu'est-ce que c'est ? Un fantôme, là c'est autant à l'homme qu'au cinéaste que je m'adresse.
Les fantômes, je vous disais que le cinéma a quand même bien des vertus, c'est vrai que ça filme des fantômes. Le cinéma muet savait le faire merveilleusement, c'est plus de travail de le faire dans le cinéma sonore, et pourtant de convoquer des fantômes c'est merveilleux, c'est une sorte de bénédiction. Vous savez, c'est comme ces rêves quand vous avez perdu quelqu'un et quand tout d'un coup, par chance, 8 ans après, vous réveillez le matin, vous avez rêvé de la personne disparue. Et c'est un enchantement. Bah, le cinéma, il fait ça tout le temps.
Quand vous dites, il fait ça tout le temps, c'est-à-dire qu'il projette de la lumière, tout simplement.
Ben ouais. C'est cette projection. Vous parliez de Cavell, cette projection. Le monde est projeté sur un écran, et quand il est réfléchi, il scintille. Et ça, c'est magnifique. Alors que moi, je pense qu'on vit dans une illusion. C'est que je vis dans une illusion. Personnellement, je pense que ma vie est terne, ennuyeuse, etc. machin. Et je la filme, je la projette. Et dès que c'est projeté, que je vais voir des films de mes camarades et tout ça, et je vois de la vie projetée, je me dis, mais non, mais la vie est absolument formidable. Et de montrer l'enchantement du monde, c'est ça le travail du cinéma.
Et les fantômes, quelle place ont-ils dans votre cinéma, Arnaud Desplechin ?
Là, dans ce film-là, ils sont lourds. Dans ce film-là, ils sont lourds. Voilà, c'est l'âge aussi. C'est l'âge. Il m'est arrivé, je pense, puisque c'était quelque chose de qui a été connu. Donc je peux dire les noms. Vous voyez, un ami, Claude Lanzmann, avait perdu son fils, Félix, qui était un jeune homme lumineux, brillant, exceptionnel, et que j'ai eu la chance de connaître. Et moi j'étais le témoin de ça, et c'est le pire. Alors, vous voyez, c'est le pire, perdre un enfant, c'est le pire. Si vous perdez votre compagne ou votre compagnon, vous voyez, on dit de vous, vous êtes veuf ou veuve. Mais alors, à perdre un enfant, il n'y a plus de mots, la langue s'effondre, vous voyez, on ne sait pas comment répondre à ça. Alors le film, dans la première scène, qui est cette espèce de Shiva, de ces 7 jours de deuil dans les us juifs, et ils sont à la Shiva, et tout d'un coup, ça part avec une scène d'extrême violence, comme ça. Et je me dis, je me confronte au pire. Mais pour réparer, vous voyez, et c'est d'aller vers la réparation. Et donc, j'ai l'impression que dans ce film, je me suis confronté avec tous mes démons, avec toutes les choses qui me font peur, en me disant, faut arrêter d'avoir peur. La peur, c'est pas un sentiment constructif. Et donc, du coup, je me suis confronté aux choses qui me terrifient. Dans la vie, je suis couard. Mais alors, au cinéma, j'ai les audaces parce qu'il y a des acteurs qui sont là. Alors, du coup, je me dois d'être audacieux.
Et vous convoquez un des plongeurs des fantômes.
Was a young boy I used to know. And he was such a gentle boy. He was going to study singing only for his health. He had a very good voice. Poor Michael Fury.
Angelica Houston, dans Les gens de Dublin, le film de son père, John Houston, tiré d'une nouvelle de James Joyce intitulée The Dead, dont le personnage de Marion Cotillard, dans votre film à vous, Arnaud Desplechin, qui est comédienne, joue une adaptation. Et c'est une histoire de fantôme.
C'est une histoire de fantôme, c'est une histoire déchirante de cette femme qui a eu un premier amour. Elle se rend compte à la maturité qu'en fait, d'homme, elle n'a pas aimé son mari, elle l'a bien aimé, c'est un homme tout à fait gentil, elle a eu des enfants avec lui, etc. Mais l'homme qu'elle a aimé passionnément, c'est l'homme qui le très jeune homme qui est mort pour elle en chantant à sa fenêtre un soir en Irlande sous la pluie. Et c'est Michael Furey. Et l'ombre de Michael Furey plane sur tout le film. Et c'est moi qui suis pas un Houstonien. C'est le dernier film de John Houston. Il la tourne en chaise roulante avec assistance respiratoire. Et le film est une splendeur de paix, d'apaisement. Et c'est déchirant en même temps de voir cet amour de jeunesse qui vient la hanter et se rappeler à elle et la définir.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi que Marion Cotillard soit un personnage d'actrice, justement?
Ben, j'aimais bien parce qu'il y avait une espèce de complémentarité. Je vous parlais de Salinger, il y avait un truc comme ça qui me faisait marrer. C'est elle, elle est interprète, et lui, il est écrivain. Alors, il y a un moment où elle est hyper cool avec lui, elle lui dit, si tu veux, je deviendrai ta voix. Elle dit, ben non, tu l'iras jamais. Et tout d'un coup, c'est l'offense, ça devient irrémédiable. Alors, la grossièreté de Louis, de Melville Poupeau, m'enchantait, vous voyez, et le fait, vous voyez, ils sont complémentaires. Ça devrait bien marcher entre eux, et ça ne marche pas. Parce qu'évidemment que ça ne marche jamais. La famille, ça ne marche jamais. C'est pour ça que c'est super drôle, les familles. C'est que ça fonctionne pas. Et donc, alors du coup, tout devrait les conduire à la concorde. Et il y a la dispute qui arrive. Elle semble irrémédiable. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais c'est jamais innocent quand un réalisateur filme un comédien, un personnage de comédien. Qu'est-ce que c'est un comédien pour vous?
Pour moi, c'est d'abord le. C'est elle a pas envie de jouer. J'avais filmé une fois, j'avais fait un film sur une actrice qui s'appelait Esther Kahn, et oui. Elle souffrait terriblement en scène parce qu'elle avait une rupture amoureuse toute simple, toute bête, et ça l'aidait pas à jouer. Et n'empêche, les acteurs, ils la trouvaient super quand elle jouait en scène. Et c'est ça, c'est quand tout d'un coup, vous devez jouer. Et alors Marion, tous les soirs, elle doit aller jouer l'histoire de cette femme qui pense à son jeune amant, Michael Collins et tout ça. Et elle est obligée d'être dans la lumière alors qu'elle préférait se cacher. Alors c'était ce paradoxe-là qui me passionnait, oui, sur Marion.
Et ça lui donne une existence quasi fantomatique dans le film. Comment est-ce que vous faites pour la capter, ça? Par quel type de plan? Par quelles images? Par quelle technique, Arnaud Desplechin?
Oh, des techniques, c'est difficile de dire. C'était très très bouleversant de filmer Marion parce qu'il y a un tel don qu'elle a fait. Vous savez, je peux raconter qu'un seul truc. C'est le dernier jour de tournage à Roubaix avant l'épilogue, parce qu'il y a un épilogue qui est là pour surprendre les spectateurs.
C'est vrai.
Et on était là, et alors je lui ai pas offert on a un rituel dans le cinéma, on offre des fleurs le dernier jour de tournage, mais il nous restait l'épilogue à faire, je vais pas offert de fleurs. Alors on s'est étreint comme ça, très ému, c'était une scène difficile à jouer et à filmer, et elle m'a regardé comme ça, nous étions dans les bras l'un de l'autre, et elle m'a dit, tu sais, je crois qu'on l'a sauvée. Et elle parlait d'Alice. Et je me dis, putain, elle est trop forte. Et c'était pour ça, et c'est à ça que j'avais invité Marion Cotillard, c'est de prendre Alice, cette femme qui est pétri de passion triste, qui est un peu perdue dans le labyrinthe de ses sentiments, qui éprouve des sentiments trop grands pour elle, qui est débordée par ça, comme une petite fille imprudente, eh ben, Cotillard, elle a assez de classe pour la sauver.
Vous nous avez beaucoup parlé de comédiens aujourd'hui, et vous nous faites un cadeau, Arnaud Desplechin. Vous avez écrit un texte en hommage à Jean-Pierre Léaud. C'est un texte que vous aviez écrit, que vous n'avez jamais pu dire.
Non.
Et on est très fiers de pouvoir l'entendre ce matin.
Mais ça me touche parce que, vous voyez, cette année va être a été montré La Maman et la Putain, qui était un film avec Jean-Pierre Léaud, qui a été montré en copie restaurée. Et je devais remettre la Palme d'honneur. C'était Thierry Frémaux qui m'avait demandé. Je suis monté sur scène. J'étais terrifié comme un lapin dans les phares d'une voiture. Du coup, j'ai abrégé le texte et j'ai jamais osé dire les mots à Léo. Vous voyez, et voulait que je vous les lise.
Évidemment.
Ben je lui disais, je vais vous parler de Jean-Pierre Léo. Alors même là, je commençais à bafouiller sur scène. Dans le dernier plan des 400 coups, et c'était votre premier film, Jean-Pierre, vous êtes retourné pour nous regarder droit dans les yeux. Vous aviez 14 ans, vous étiez à Cannes, et Jean Cocteau vous tenait dans ses bras. Ce regard caméra, nous en sommes jamais remis. Vous voyez, je suis pas acteur. Léo a donné toute sa vie au cinéma et c'est unique. Ce soir, le plus grand festival du monde lui rend hommage. Je suis très ému d'être celui qui lui remet une telle distinction. Je ne sais pas d'acteur plus fragile et plus solide dans le même mouvement que Léo. Timide, audacieux, pudique et hâbleur. Vitesse, onirisme, douceur, fièvre, folie et précision, masculin, féminin, vrai, faux. Vous jouez comme on marche sur un fil. Vous êtes tenu sur ce fil toute votre vie. Votre invention, sans cesse votre invention, et votre passion pour le cinéma sont sans commune mesure. Aux côtés de Truffaut, Godard, Rivette, Eustache, Léo aura su inventer la modernité au cinéma. Mais c'est quoi la modernité ? Mais pour Léo, ce fut de se tenir au plus près de la vie même et pourtant d'inventer des mondes nouveaux. Sa fantaisie a bouleversé ma vie, elle l'a remise à l'endroit. Lors de l'ouverture du festival, Donald Sutherland disait qu'il attendait des films qui viennent changer nos vies. Monsieur, vous avez changé la mienne. Sans vous, j'aurais été tellement seul.
Au fond, on n'a parlé que de ça, Arnaud Desplechin, du cinéma qui change la vie et qui nous rend meilleurs. Merci infiniment.
Merci à vous.
D'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vous montrez les marches tout à l'heure avec l'équipe de Frères et Sœurs et que les auditeurs pourront découvrir votre film dès ce soir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers avec Camille Combal. C'est juste après ça.
Encore un mot de plus, un mot de trop, et deux amants sur le carreau. Une année impossible que cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvaient de dictature militaire, ces connards amnésiques ont foutu en colère. On s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans et des alarmes. T'as toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir. Dans la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes jusqu'alors inconnues. Brille ton cerveau, sont tes pires cauchemars.
Toi et moi, Bernard Lavillier, il est prêt, ça y est, 9h40 sur France Inter, tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M. Sonia, avec Camille Combal, c'est ça?
Exactement, donc il est la même heure à Cannes et à Paris. Bonne nouvelle, il n'y a pas de décalage horaire.
Qui sait? Ça c'est quelque chose qu'il faudrait discuter, ça mériterait une émission d'Ali Rebéi. Je vous écoute.
Salut. Salut Augustin et à lundi.